www.radio-g.fr.
Ici l'ombre, les angevins parlent aux angevins. Alors bon, ce satané virus est parmi nous et ce que l'on sait de lui, c'est qu'il révèle des choses sur nous tous. Tenez, par exemple, ces messages sympathiques de voisins qui veulent bien que les infirmiers sauvent le monde, mais absolument pas qu'ils habitent à côté de chez eux. Faudrait pas que ceux qui mettent leur vie en danger mettent par-dessus le marché la nôtre, que diable. Tout ça sent bon mauvais, quoi. Il y a des remugles de lettres anonymes, comme les aime le romancier Romain Slocombe. Lisez Monsieur le Commandant, vous y trouverez des similitudes. En parlant de similitudes, nous espérons vous proposer une émission radio digne de ce nom. On vous imagine donc cloîtré chez vous, avec une certaine morosité ambiante. Heureusement, vous êtes à côté de votre poste de radio, et pris d'un élan subi, vous l'allumez. Le poste grésille. Aujourd'hui, vos complices se nomment donc Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bon, je fais toujours le bonsoir vu que c'est toujours enregistré et toujours cloisonné. Vous êtes sur le 101.5 FM, c'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique maestro.
C'est peut-être vous.
On m'accuse d'être votre maîtresse.
Qui ?
J'ai reçu au courrier de midi une lettre anonyme, une lettre ignoble.
Que le corbeau m'a fourni de singulières précisions sur votre manière d'administrer.
Répétez ce que vous venez de dire. Répétez-le !
Vous pouvez rentrer chez vous, je serai plus prudent.
Et si je ne veux pas être prudent ?
Parce que tout le monde ici vous croit coupable. On parlera de provocation.
Inutile d'insister, docteur, j'irai jusqu'au bout.
Toi, vous êtes prise et j'en emporte la preuve.
Non, ne partez pas ! Non, j'ai trouvé. Denise vient faire sa correspondance. Ici,
la détraquée qui nous empoisonne depuis des mois, c'est vous. Le corbeau a raison. Je vous promets que celui-là n'est pas prêt de voir le jour.
Rémi ! Oh, Rémi !
Heureusement que ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'a ouvert l'œil.
Quelle lettre ?
Celle-ci.
On vous accuse de délivrer les faibles femmes d'un fardeau encombrant. Voilà. Vous êtes prévenu.
Si je connaissais le salaud.
Tout de suite les grands mots.
Tu m'as volé mon amant, mais sois tranquille. Michel le saura, tout le monde le saura.
Taisez-vous.
Le corbeau a raison, j'aiderai à purifier la ville.
Allez-vous vous taire.
Non, je le dirai, je le crierai si je veux. Sale type, sale type.
Depuis qu'il souffle sur la ville un tourbillon de haine et de délation, toutes les valeurs morales sont plus ou moins corrompues. Vous êtes atteint comme les autres.
Tu es lâche. Tu es faible. De nous deux, c'est toi la grue. Mais ça m'est égal, je ne saurais pas.
Mmh.
commencez à m'inquiéter.
Vous disiez tout à l'heure que vous demandiez à la vie l'apaisement.
Ah oui, l'oubli total.
Je ne peux pas vous offrir tant que ça. Et quelques heures d'oubli, ça compte tout de même.
Tenez-vous.
Enfin oui ou non, connaissez-vous la personnalité du corbeau?
Connaissez-vous la personnalité du corbeau? Il s'agissait bien sûr de la bande originale du film Le Corbeau d'Henri-Georges Clouzot, sorti en 1943. L'un des films cultes de Romain Slocombe dont j'ai parlé en introduction liminaire. Mais quittons ces contrées nauséabondes pour nous plonger dans une émission culturelle de genre et commençons par le commencement. Confinement dans le noir 1, le vieux bouquin. Quand on est forcé de rester chez soi, on finit toujours par aller regarder dans les endroits improbables de sa bibliothèque s'il n'y a pas un livre obscur à découvrir. Au hasard de mes pérégrinations, j'ai commencé à jeter plus qu'un œil à la défunte collection Rivage Mystère, co-dirigée par François Guérif et Claude Chabrol. Je vous ai déniché La mort qui rôde de Francis Bidding, un petit roman de mystère de 1931 dans l'Angleterre d'Agatha Christie. Une petite cité balnéaire, une galerie de personnages tous plus ou moins ancrés dans une bourgeoisie contraignante. Parmi eux, un tueur en série, un déséquilibré mental, un maître chanteur et un individu qui a changé d'identité après avoir arnaqué de pauvres et moins pauvres épargnants. C'est beaucoup pour la police de la petite communauté et bientôt débarque Scotland Yard. Les procédures d'enquête sont dans la ligne héritée des polars victoriens. On s'attache aux différents personnages. Il y a des descriptions fines de la psychologie et des interactions des personnages. On s'arrête sur des détails importants, les détails. Et puis, on essaie de démêler le vrai du faux, comme ces aboiements de chiens qui suivent de très près ces meurtres nocturnes, qui ont tous le même mode opératoire et dont les cibles ont de fâcheuses habitudes. S'ensuit un procès et un dénouement qu'il ne faut pas déflorer. En son temps, le roman était considéré comme l'un des 10 meilleurs romans policiers de l'histoire. Gageons qu'il est toujours dans les 100 aujourd'hui. Et pour peu que, comme moi, on aime les intrigues malicieuses avec un minimum d'attention aux affaires domestiques et sentimentales des personnages, il peut gagner 20 à 30 rangs. Je connaissais Francis Bidding pour La maison du docteur Edwards, adaptée par Hitchcock. Je ne m'étais pas aperçu que c'était le pseudonyme de deux auteurs, John Leslie et Hilary Hayden St. George Saunders, qui ont commis à eux deux une soixantaine de romans et qui sont donc des rouages importants de l'école d'écriture de romans policiers à quatre mains. Si jamais vous dégotez dans une vieille malle un roman de la collection Rivage Mystère, vous pouvez y plonger les yeux fermés. Pour ma part, je tiens La mort qui rôde de Francis Bidding comme l'un des meilleurs de la collection. Mais je laisse la parole à Luc, qui va nous causer de Jean Hougron, un auteur que nous affectionnons tout particulièrement et qui est aujourd'hui, lui aussi, malheureusement, oublié.
Comment un titre peut résumer à lui seul tout un roman, Mort en fraude ? C'est le volume 4 de La nuit indochinoise de Jean Hougron, grand prix du roman de l'Académie française en 1953. Si la mort est bien là où elle doit être, la fraude est certainement là où on ne l'attend pas. Mais en prononçant le nom de Jean Hougron, je vois comme un grand vide dans vos yeux. Jean Hougron connaît pas. Cela vérifie une nouvelle fois que l'enfer, celui des bibliothèques, est rempli d'auteurs inconnus qui connurent, pendant un moment, leur heure de gloire. Jean Hougron, c'est toute une époque, celle des années 50, qui raconte un pays, à peine sorti d'une guerre, et entré immédiatement dans une autre, à l'autre bout du monde, la guerre d'Indochine, avant de se plonger juste après, dans celle de l'Algérie. Parce que Jean Hougron, c'est l'auteur de l'Indochine. 6 volumes pour sa série La Nuit Indochinoise, devenue depuis le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la province chinoise du Guangdong. Ah, le beau temps des colonies, chantait nostalgique Michel Sardou. Mais Jean Hougron est aussi l'auteur de deux romans de science-fiction, Le Signe du Chien et Le Naguen, livre plébiscité par Jean-Pierre Andrevon. Mais revenons à Mort en fraude. Il était là, caché dans ma bibliothèque et réapparu à la suite de mon dernier déménagement. Pourquoi lui particulièrement, alors que je ne l'ai pas réorganisé, cette bibliothèque ? J'ai juste sorti les livres des cartons et je les ai posés sur les rayonnages, au hasard, en me promettant de mettre bon ordre à tout ça un de ces jours. Mais ce livre, lui, avait trouvé, semble-t-il, sa place pour attirer mon regard, coincé entre Le pain des rêves de Louis Guillou et C'est beau une ville la nuit de Richard Bohringer. Ma version, celle du livre de poche de 1965, est donc avec ses célèbres couvertures illustrées par Lucien Fontanarosa, tirant presque tout le temps vers le marron. Mais ça, c'est peut-être l'effet du temps. En le prenant, par curiosité, je me souviens l'avoir acheté il y a quelques années, 50 centimes chez Emmaüs, un vers d'une chanson de Bachung m'est venu immédiatement en tête, comme une ritournelle. L'Asie coule à mes oreilles. Quelle étrange construction que celle du cerveau. Je ne vois aucun rapport entre Mort en fraude et ma petite entreprise, sinon ce vers, l'Asie coule à mes oreilles. Mort en fraude, cela tient en peu de mots. Horsier, un jeune homme, est envoyé à Saïgon, en Indochine, pour occuper un nouveau poste dans l'entreprise qu'il emploie. Sa sœur lui propose de participer à un trafic de devises. Des gangsters lui remettent 50 000 dollars à porter à un destinataire à son arrivée à Saïgon. À l'époque, un dollar valait 50 centimes d'euros en France et revendu à Saïgon, le même dollar valait 1,30 euro. J'ai fait toutes les conversions entre les anciens, les nouveaux francs et les euros. Il se fait dérober l'argent sur le bateau. Arrivé à Saïgon, il va être poursuivi par les gangsters et va fuir, aidé par Anne, une jeune indochinoise. Et ce sont les 17 premières pages d'un livre qui en fait près de 250, écrit très petit. Cela commence donc comme un de ces romans policiers américains que l'on caractérisait de hard-boiled, mais ça n'ira pas plus loin. Tout le reste du roman est un roman d'apprentissage, celui d'un jeune homme français, blanc, qui va découvrir le peuple indochinois dans un village perdu, exposé aux expéditions du Viet Minh, et qui va se révéler à lui-même. Pourquoi j'aime ce roman, même après une troisième lecture ? Il y a d'abord un style. Plus que le style de Jean Hougron, c'est le style d'une époque, celui d'une grande famille d'auteurs populaires qui écrivirent entre les années 30 et le début des années 60. Une écriture que l'on peut ranger dans la même famille que celle de Simenon, de Roger Vaillant, un autre grand oublié, peut-être aussi de Joseph Kessel. De la simplicité avant tout, le mot juste, des phrases courtes avec une hantise de la métaphore artificielle et une histoire que l'on tient de bout en bout. Il y a aussi la connaissance du sujet. Jean Hougron a passé plusieurs années, de 1947 à 1952, en Indochine, à la manière d'un aventurier. Kessel, à nouveau, Henri de Montfred, pourquoi pas Baudelaire. Il n'y a pas chez lui d'exotisme. Au travers du roman, on vit l'Indochine des années 50, la pluie, la chaleur, l'eau présente en permanence, la misère. Il n'y a pas de parti pris. Il expose les faits toujours du point de vue de chacun de ses personnages, ce qui produit une écriture dialectique qui laisse une vraie place au lecteur. Les personnages sont complexes et dans son lexique, aucune dénomination péjorative pour les populations autochtones. Et puis, il y a l'humanisme et le romantisme. Dans Mort en fraude, Horsier, le héros, est un jeune homme de 24 ans, plongé dans un univers qu'il ne connaît pas, mais qui tente à tout prix de rester lui-même avec ses convictions, y compris dans la relation qu'il a avec Anne, la jeune fille qui l'aide. Jean Hougron, en fait, un personnage attachant dont on sait dès le départ vers quoi il marche. On a souvent traité Jean Hougron de colonialiste. On trouve encore ce genre de critique sur certains blogs. Mais je pense que c'est le fait de lecteurs un peu superficiels, équipés du prêt-à-penser occidental et gauchisant, ne se rendant pas compte que leur critique est totalement ethno-centrée. Il est impossible de ne pas faire le parallèle entre Mort en fraude et Le coup de lune de Georges Simenon, écrit en 1933. L'Indochine pour l'un, le Gabon pour l'autre. Mais pour tous les deux, des jeunes hommes de la métropole, pour héros, qui vont se perdre chacun à leur manière dans ce que l'on appelait les colonies. Je vous plus que recommande cette lecture. Si j'en crois nombre de lecteurs, c'est addictif. Surtout, ça fait un bien immense d'avoir du plaisir à lire. Et peut-être que, comme pour moi, l'Asie coulera à vos oreilles.
Des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée, et les vacances, abstinence. Ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores, le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. L'Asie coule à mes oreilles. Ma petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament. Gère la reprise, embauche de gauche, inlassablement se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. À l'oreille de ce lèvre. L'amour importe, qu'importe, l'amour s'exporte. Je perds le nord, qu'importe, quand je vois se poindre les pyramides, néanés, mes lubies. L'Asie coule à mes oreilles, ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe des trésors satinés. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Merci Luc pour cette chronique. Gageons que tu auras redonné envie de découvrir Jean Hougon. Et moi, j'ai bougrement envie de le relire à nouveau. Confinement dans le noir 2, le livre eu juste avant. Peu de temps avant le confinement, j'ai eu la chance de recevoir un nombre de livres conséquents. Évidemment, Le mois de mars est synonyme de double festivité. Livre Paris et Quai du Polar sont deux manifestations littéraires qui s'enchaînent. Du coup, les éditeurs mettent les bouchées triples, invitent des auteurs à parcourir la France et publient presque autant qu'à la rentrée littéraire de septembre. Les éditions Agoulot proposent bien souvent de voyager dans les pays de l'Est de l'Europe. C'est encore le cas avec ce nouvel opus des aventures de Mortka et de sa lieutenante Sushoshka. Les deux nous trimballent à Varsovie sous la plume très siménonienne et néanmoins polonaise de Wojciech Szmilarz. L'auteur, dorénavant je l'appellerai l'auteur, a une jolie plume désabusée pour raconter les tourments polonais de l'après la chute du mur de Berlin. La Cité des rêves, c'est un complexe immobilier de haute sécurité qui héberge des bourgeois sans devenir, un dealer de drogue, des étudiantes qui se prostituent et des propriétaires de voitures dont les pneus sont lâchement assassinés ou lacérés. Et puis, il y a cette jeune femme qui garde les enfants d'un ancien député et qui est retrouvée morte d'un coup de couteau. Alors bien sûr, on pourrait déjà se demander pourquoi il y a des vigiles dans le complexe immobilier et en quoi il est hautement protégé. Il est de coutume que les meurtriers tuent malgré les contraintes qu'on leur oppose. Et puis là, dans cette intrigue, une femme de ménage sans papier et ukrainienne vient très vite se dénoncer. Mais pour le cube et la sèche, les deux enquêteurs, l'affaire est un peu plus compliquée que ça. Ou pas, c'est selon. Mais toujours est-il qu'avec ce roman, vous allez vous immerger dans ce que la société polonaise a de plus crade et vous confronter à des voyous, des politiques et des politiques voyous. Et puis, il y a ceux qui aspirent à être l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. L'auteur distille en outre les attentes du peuple polonais, et surtout, il ne juge pas. Il est observateur des drames qui se déroulent sous nos yeux. C'est en cela que c'est un digne héritier de Georges Simenon. La Cité des rêves, c'est l'histoire de destins qui se fracassent à la réalité. C'est chez Agoulot, et ça nous vient de Pologne. Vous écoutez Radio G sur le 101.5 FM et c'est Calibre 58. Juste avant de céder la parole à Linda, qui va aborder les foulards rouges, en guise de masque c'est plutôt pas mal, et de rebondir dans la foulée avec la chronique jazz de Toops, vous écoutez Little Green Bag de George Baker, qui est dans la BO de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino.
Losing my mind. Out of sight in the night. Out of sight in the day. Jadis, Dauchagne s'était battu au nom des dieux et des fées, des prêtres et des sorciers, contre les gens des villes qui avaient décidé dans leur superbe que ces choses vieilles comme le monde périraient avec le roi. Le roi n'était pas mort tout seul, il lui avait coupé le cou. Maintenant, il tuait les dieux à coups de canon, brûlait les églises, pourchassait les prêtres, incendiait les moissons, traquait les paysans en battue, comme du gibier de nobles. Dauchagne savait qu'après le silence de la mort, vient la résurrection. Et le silence persistait. Donc, ce n'était pas la mort. En tout cas, pas la sienne. Peut-être la mort de la terre. Peut-être Dieu avait-il anéanti tous ces maudits comme il fit à Gomorre et l'avait-il oublié, lui, Dauchagne, enfoui dans son arbre. Alors, au début, je m'étais promise, bon, cette fois, tu fais léger. Sauf qu'entre-temps, il y a Manu qui nous a dit qu'on était en guerre. Si, si, si. Lorsqu'on engage une guerre, on s'y engage tout entier. On s'y mobilise dans l'unité. Nous ne devons avoir qu'une seule obsession, être unis pour combattre, etc. Ouais. Putain, la guerre! Alors là, je me suis dit, bah, si je persiste dans le léger, je vais être en complet décalage. Il faut que je change mon fusil d'épaule. Un fusil, la guerre. Ouais, bon. Donc, j'ai lu Les mouchoirs de Cholet de Michel Ragon. Paf! Guerre et locale. Ah bah, local pour nous. Hein. Ça commence en 1796, après la Deuxième Guerre de Vendée. Un pauvre gars a échappé au massacre en se planquant dans une forêt, en se nourrissant de racines, terré dans le tronc d'un arbre creux, un chêne. D'où son nom, du chêne. Enfin, en parler local, ça fait... Dauchagne. Dauchagne. Oui. Ayant moi-même des origines cutéreuses, j'ai une certaine aisance à me glisser dans l'univers provincial. On développera une autre fois. Voilà. Dauchagne sort de sa planque. Dauchagne entra dans un bourg, ou plutôt ce qui subsistait d'un gros village, reconnaissable à ses tracés de ruines noircies. L'église, canonnée, s'était transformée en une pyramide de granit. À l'étal d'une boucherie, des hommes étaient suspendus au crochet à viande par le menton. Sur la grande croix d'un calvaire, un prêtre en robe noire restait attaché. Sa tête, fracassée par les balles, pendait sur une lanterne brisée, suspendue à sa poitrine, et qui avait dû guider les tireurs. Des carcasses de chevaux et de bœufs pourrissaient entre les ruines. Sur l'ancienne place du marché, tous les bourgadins se trouvaient là, couchés, raides, comme pour être comptés. Dauchagne dénombra 564 cadavres, dont 147 enfants. Les plus petits, les marmots, avaient été embrochés à des baïonnettes plantées dans le sol. Les femmes aux jupons relevés montraient leur sexe éclaté par les cartouches dont on les avait bourrées. Le maire se... attendez, là, j'ai un petit problème. Quand je lis ça, me viennent les images rapportées, bien sûr. Hein, moi, petite vénarde, habitante d'un pays en paix. Les images de la guerre de Yougoslavie ou le massacre des Palestiniens du camp de Sabra et Shatila. Mais c'est pas ça là qu'on vit. Oui, il y a des morts. Oui, il y a de la souffrance. Mais raison de plus. Faut faire gaffe là, Manu, là, la sémantique. Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Tout ça là. Bon, là j'étais dans le bouquin et du coup j'y suis restée. Surtout que franchement il n'y a que 2-3 pages comme ça. C'est avant tout l'épopée d'une tentative de reconstruction d'une paroisse rurale. Malgré 2 autres guerres de Vendée, malgré les changements de régime successifs, on a passé la République, il y a Napoléon, puis le retour des Bourbons avec la Restauration, et re-Napoléon, et re-Louis XVIII, enfin bref. Notez, il y a un truc qui est pratique, c'est qu'en gros, il n'y a que les costumes qui changent. Les gars en place, c'est quand même un peu toujours les mêmes. Notre Dauchagne, d'ailleurs, commence à se demander si lui, paysan qui a fait la première guerre de Vendée pour sauver le roi, ça a quand même fait un peu 100 000 morts, hein, quand même, s'il ne serait pas un peu le pigeon de service quand il apprend que le général qui a été choisi par Louis XVIII, himself, pour présenter son neveu aux Vendéens, n'est autre que Turreau. Je vous la refais. Le roi choisit le général qui, quand il était républicain, était à la tête des colonnes infernales. Les massacres décrits tout à l'heure. 30 000 morts. Et le gars, il est toujours général chez les Bourbons, quoi. Monsieur le Dauphin, je vous présente les Vendéens. Oui, je les connais bien, enfin, ce qu'il en reste. Oui, réversible la veste, merci. Alors, je me suis demandé comment 100 000 hommes avaient pu donner leur vie pour sauver la royauté et le clergé qui les asservissait. Ce livre est formidable pour ça. On se croit dans un récit classique au début, et Michel Ragon nous accompagne l'air de rien dans une façon d'être au monde, chez les Chouans de la fin du XVIIIe siècle, alors une autre planète. Hein. Et pourtant, comment expliquer ce qu'on ne comprend pas autrement que par des croyances ? Nous sommes avec Louise, la femme de Dauchagne. La nuit, les loups furetaient autour de la métairie, et la petite Louise se signait, car elle savait que lorsque la place manque en enfer, le diable transforme les damnés en loups. Si les loups venaient si nombreux depuis la fin de la Grande Guerre, c'est que les bleus et les culs blancs, morts sans confession, étaient damnés, et que le trop-plein de l'enfer débordait toutes les nuits. Lorsque les loups s'approchaient du village, tous les chiens hurlaient dans les fermes. Dauchagne disait « Le diable a créé le loup, mais Dieu nous a donné le chien ». Ou plus précisément, il ne disait pas « le loup », il disait « la bête, la chose, le chien gris, le chien de nuit, le chien d'enfer ». Tellement était grande la peur du loup que l'on ne prononçait qu'à regret son nom. On l'appelait aussi le Parisien.
J'aime beaucoup.
Louise n'oubliait pas son petit, mais ignorait l'usage de nourrir les bébés à heure fixe. Comme toutes les autres mères, elle venait lui donner son lait lorsqu'elle en avait le temps, lorsqu'elle n'était pas au champ, lorsque l'envie lui en prenait. Elle allait même alors jusqu'à lui faire des gâteries, lui préparant du mâché, ses croûtes de pain mastiquées et introduites ensuite dans la bouche des enfants comme de la panade. Arsène, son bébé, souffrait des morsures de la gale et, de plus, son visage se craquelait de dartre. On ne le lavait pourtant jamais, la saleté protégeant de toutes les infections. Forte des précédents malheureux d'Ernest et de Noémie, morts en bas âge, Louise prenait toutes ses précautions pour la survie d'Arsène. On lui avait suspendu au cou des colliers de racines de guimauve et des dents de génisse, tondu les cheveux de bonheur, puisque les cheveux tirent la force. Jamais couper les ongles, ce qui rogne l'esprit, puisque pendant l'hiver il avait neigé quelques jours, on en profita pour lui garantir une aptitude de bon marcheur en lui mettant les pieds dans la neige. Et pourtant, malgré toutes ses attentions, Arsène mourut dans sa deuxième année. C'est la croyance qui maintient l'ordre. Michel Ragon nous délivre ce concept très intéressant dans la bouche de Napoléon. Quand j'étais premier consul, j'avais dit à Lafayette que je mettrais les prêtres encore plus bas que la Convention les avait laissés. Mais je me suis aperçu que la religion demeurait la vaccine de l'imagination. Elle la préserve de toutes les croyances dangereuses et absurdes. Un frère ignorantin suffit pour dire à l'homme du peuple « Cette vie n'est qu'un passage ». Si vous ôtez la foi au peuple, vous n'aurez que des voleurs de grand chemin. Si on veut que l'ordre soit assuré, il faut une police et un clergé soumis à l'État. En gros, pour tenir une population, il faut que ceux qui transmettent les croyances et la police soient soumis à l'État. Soient soumis à l'État. Soient soumis à l'État. Putain, ben c'est fou comme ça résonne. Bon, c'est pas difficile. La petite communauté de Dauchagne a été à peu près peinard le temps de la reconstruction du village, où ils vivaient en autogestion avec une organisation collective sous la férule d'un curé sans privilège qui mangeait et suait comme eux. Et ça a été de nouveau le bordel quand le pouvoir a mis son nez dedans en remettant la notion de propriété avec tous les impôts et loyers, taxes. Il y a une scène excellente, Chantant l'hiver, le forgeron qui a repris la forge du village, enfin les ruines, parce qu'il a tout refait, le toit, le foyer, le soufflet, les outils, etc. Chante en hiver voit arriver un notaire qui vient estimer la forge et qui lui dit « Ouais, tout ça, la forge n'était pas à vous, vous devez tant au propriétaire. » Chante en hiver lui répond « Non mais attendez, elle valait plus rien, c'est moi qui ai tout fait. »« Ouais, bah, peut-être, mais maintenant, c'est tant. » Évidemment, Chante en hiver ne peut pas payer cash et c'est le gros propriétaire local qui lui fait crédit. Et le pauvre gars se retrouve endetté à vie. Pas énorme ça ? Alors, l'autre concept apporté par le pouvoir, la notion d'étrangers. Même si le gars a fait la même guerre, fait partie de ceux qui ont rebâti le village et épousé une fille du coin, c'est un étranger. L'idée diffuse suffira à fissurer l'entraide. Je laisse le dernier mot à l'un d'entre eux, le sabotier de la Gâtine. La pauvreté, ça rend méchant. Et l'ignorance aussi.
Nous sommes le mardi 7 avril 2020. Nous vivons les temps historiques d'un confinement inédit, mais surtout inimaginable. Alors ça jazz plutôt classique en ce moment. Retour aux fondamentaux. Une de mes toutes premières chroniques parlait du contrebassiste Charlie Mingus. La basse fait partie des fondements de la rythmique, la base. Mais en ce moment, ce sont les livres qui reprennent tous leurs droits. Je vous en apporterai une preuve supplémentaire dans 15 jours avec le livre de Claire Julliard sur l'enfance de Armstrong. Vous savez, ce premier trompettiste à avoir marché sur la Lune et avoir gagné 7 fois le Tour de France. Décidément, ce confinement me fait dire des bêtises. En attendant, c'est l'heure des confidences. J'avais aperçu depuis quelque temps un gros livre orange sur la bibliothèque. Et oui, l'avantage du confinement, c'est qu'on finit par s'apercevoir de pas mal de choses dans sa maison. Le titre, culotté, culotté, au féminin pluriel. Le sous-titre, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. L'auteur, Pénélope Bagieux. Oups, c'est donc une autrice. La maison d'édition, mais Gallimard bande dessinée. Il s'agit d'un recueil de mini-biographies en BD de destins de femmes qui n'ont pas été là où les hommes les attendaient. Incroyable ce bouquin, tellement instructif et tellement révélateur. Révélateur de la place que nous, les hommes, avons décidé de réserver aux femmes. Tout simplement, la moins bonne. Et là-dedans, je tombe sur cette mini-bio de Betty Davis. Et là, c'est le choc. Je savais que Betty Davis avait été la femme de Miles Davis, mais ce que je ne savais pas, et pourtant j'en ai lu des biographies de Miles Davis, c'est l'importance ultra déterminante qu'elle a eue sur sa carrière. Le Miles en a parlé, mais très peu en fait. Le Miles, qui lors d'un dîner à la Maison Blanche se vantera d'avoir révolutionné 3 ou 4 fois l'histoire de la musique de son pays. De fait, il avait dit ça, mais c'était pour moucher un invité qui lui demandait, qui se demandait et qui avait osé lui demander pourquoi il était là. Et bien, il avait répondu ça, qu'il avait révolutionné 3 ou 4 fois l'histoire de la musique de son pays. Et vous ? Bref, dans mon souvenir, le dit Miles ne dit pas clairement que sans sa femme Betty, il se serait sans aucun doute encrouté dans un jazz qui ne s'adressait plus qu'à son nombril, un jazz qui avait perdu de vue sa mission première d'être le reflet d'une quête pour l'évolution et la révolution permanente. C'est elle, Betty Davis, qui avait étudié la mode, qui le fashionise, qui lui présente ses copains musiciens, certains Jimi Hendrix ou Sly Stone. Ok, il y a des hommages, un hommage de Miles Davis. Sur l'album Fille de Kilimanjaro, on voit la photo de Betty Davis sur la pochette et il y a un titre qui lui est dédié pour ceux qui connaissent son nom de jeune fille. Miles, à propos de couverture, a toujours su la tirer à lui. Comme à propos de cet album sorti dans les années 80-86, je crois. Toutou. Miles Davis, Toutou. J'ai usé le vinyle à force de l'avoir écouté. Et j'ai adoré. Et je continue à l'adorer. J'ai énormément appris avec cet album sur la difficulté d'arriver à l'épure. Eh bien, sur cet album, on voit sur la pochette, on voit le titre, le nom et la photo de l'artiste au recto. Et au verso, on voit les titres des morceaux. Et puis aussi les noms de la maison Warner. Et puis ceux des producteurs, dont le bassiste... Le bassiste, clarinettiste, saxophoniste, claviériste, guitariste, compositeur et arrangeur Marcus Miller, qui se définit comme un bassiste de funk avec une grande expérience du jazz. On voit aucun autre nom. Alors moi, des années après, j'écoutais un album de Marcus Miller du début des années 2000 et je me disais, ce pauvre Marcus Miller qui n'a toujours pas réussi à se débarrasser de l'influence de Miles Davis des années Toutou, le pauvre. Et puis j'ai fini par découvrir que, en fait, l'album Toutou avait été entièrement composé par Marcus Miller, qui avait tout programmé, parce que c'était la grande époque des machines, les années 80. Il avait joué les saxophones, la basse, la clarinette basse, les synthés, les guitares. Bref, il avait joué tous les instruments, à part un solo de violon, pour lequel il a fait appel à un musicien. Et puis évidemment, bien sûr, la trompette de Miles Davis, à qui il avait renvoyé la bande. Ce qui n'enlève rien au talent de Miles Davis, entendons-nous bien. Mais disons que ça remet les choses dans une perspective. Et du coup, c'est un titre de Marcus Miller que j'ai choisi de vous faire écouter. Marcus Miller, un bassiste électrique, pas contrebassiste. Un bassiste électrique spécialiste du funk et de cette technique particulièrement percutante qui s'appelle le slap. Le musicien frappe les cordes avec son pouce et les tire avec son index. Et pour rester dans l'ambiance des années 80, c'est un titre composé pour le saxophone héros David Sanborn, qui n'aura pas eu besoin de cacher les noms du compositeur de son album Straight to the Heart. Ça, c'est entre parenthèses. Saxophoniste alto, tiens, comme Art Pepper. Un saxophoniste avec lequel il aura collaboré pendant plus de 20 ans. Dans un style smooth jazz, Marcus Miller fait d'abord chanter la basse en la jouant au doigt. Il déroule le tapis rouge pour le sax avec la partie slapée. Le sax arrive, il rugit, il repasse la balle à la basse qui fait un solo de slap mémorable et qui renvoie la balle au saxophone alto qui fait un solo de sax extraordinaire. On écoute le titre Run for Cover, qu'on pourrait traduire par Tous aux abris. Il me semble un temps de confinement.
FM sur Radio G. Nous approchons lentement mais sûrement de la fin de notre émission. Confinement dans le noir 3, le vieux film. Rien de tel qu'un bon vieux DVD de films noirs des années 1950. D'ailleurs, La deuxième femme de James V. Kern est pile de 1950. Il y a une maison d'architecte sur les hauteurs d'un littoral, un veuf éploré, une jeune femme qui tombe amoureuse du veuf et une machination qui semble ourdie contre lui par on ne sait qui. Avec un poil d'imagination, c'est le début de la trame de Rebecca. Mais James V. Kern n'est pas Alfred Hitchcock. C'est un réalisateur sans grande originalité qui fait son métier avec ce qu'il a. Le couple Robert Young-Betsy Drake, sans atteindre des sommets, est crédible et on s'attache à la jeune femme que cette dernière incarne. Elle est la femme indépendante au milieu d'une galerie de mâles alpha qui va pour partie démêler l'intrigue. Pour le reste, il faut bien que Robert Young justifie son cachet de star. L'intrigue joue avec les fausses pistes, nous fait douter du personnage de l'architecte. On se sent en osmose nébuleuse avec lui. Bien entendu, le final a son côté doux amer, et l'avantage des films noirs des années 1950 tient en quatre points. Une intrigue, un couple de personnages, un scénario au cordeau et un dénouement improbable. Pari tenu. La deuxième femme de James V. Kern chez Artus Film avec Robert Young et Betsy Drake.
with the red dress on. She can do the burlet all night long.
Bref, on aurait aimé vous en parler, mais une émission ne dure qu'une heure. De la série Freud sur Netflix, 8 épisodes d'une heure pour vous plonger au cœur d'une intrigue sanguinaire dans une ville de Vienne, sur fond d'aliénisme, de mysticisme et d'affrontements austro-hongrois. De l'adaptation chez Dargo de Pepe Carvalho, le personnage Art Boyd imaginé par Manuel Vázquez Montalbán. Ce même Pepe Carvalho repris par Carlos Zanon au seuil pour une suite de ses aventures. Du festival Quai du Polar, qui s'est quand même tenu, mais dans une version virtuelle. Allez voir sur le site de Quai du Polar, ça en vaut la peine. Des maisons d'édition, des librairies, des auteurs qui se mobilisent pour vous rendre le confinement plus agréable. Là aussi, c'est du virtuel, c'est sur la toile. On vous quitte sur ces bonnes paroles. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. On se dit à dans 15 jours, sûrement toujours confiné. Tchuss!
vous parliez à l'œil pour les bons morceaux.
Caresse métallique sur Radio G 101.5 FM, un mardi sur deux de 22h à minuit, l'émission qui te déchire les tympans.